Bonjour l'Afrique, Morgane Guiriec au micro en compagnie d'Anne Albertson. Merci de votre fidélité au programme de la Voix de l'Amérique. En raison d'un problème technique, nous vous proposons un bulletin d'information. La Sierra Leone a conclu 3 jours d'isolement forcé de la population dans le but de combattre la propagation du virus à Ebola, qui a déjà causé plus de 2600 morts en Afrique de l'Ouest.
Et au Nigeria, les élèves reprennent l'école aujourd'hui après des vacances prolongées à cause d'Ebola. Cependant, le syndicat majoritaire des professeurs continue à s'inquiéter des risques de propagation du virus dans les établissements. Jusqu'à présent, le virus Ebola a tué 8 personnes au Nigeria sur 20 cas confirmés.
Au Nigeria toujours, les rumeurs sur la mort du leader de Boko Haram, Aboubakar Shekau, lors d'affrontements avec l'armée camerounaise, sont reçues avec scepticisme. Un de nos correspondants dans la région confirme cependant la mort de plusieurs militants ces derniers jours. Par ailleurs, des détails ont été disponibles depuis hier sur une attaque de la secte islamiste dans un marché de l'état de Borno, faisant des dizaines de morts.
Au Mali, l'explosion d'une mine a tué au moins 2 civils près d'Aguelok, dans le nord-est du pays. L'incident s'est produit dans la nuit de vendredi à samedi, ont déclaré des sources militaires dimanche. 10 soldats tchadiens de la mission de l'ONU, la MINUSMA, ont déjà été tués ces 2 dernières semaines par 3 mines différentes. C'est dans ce contexte d'insécurité que le pays célèbre le 54e anniversaire de son indépendance aujourd'hui.
10 migrants au moins ont trouvé la mort et près d'une trentaine sont portés disparus à la suite d'un naufrage au large des côtes libyennes, rapportaient hier les médias italiens. Selon l'AFP, une embarcation surchargée tentant de rejoindre l'Italie à partir de l'Afrique du Nord a coulé à une quarantaine de kilomètres de la côte libyenne, selon ces informations. 45 personnes ont été recueillies par un bateau marchand. Les survivants ont affirmé aux secouristes que l'embarcation qui a coulé transportait une centaine de personnes.
Progression des djihadistes du groupe État islamique. L'organisation islamiste assiégeait hier Aïn al-Arab, une ville kurde clé en Syrie, après avoir pris une soixantaine de villages. C'est ce qu'annonce l'AFP. Des dizaines de milliers de Kurdes syriens se sont enfuis vers la frontière turque. Mais selon le Haut Commissariat de l'ONU pour les réfugiés, des heurts à la frontière ont provoqué la fermeture de la majorité des points de passage. La prise d'Aïn al-Arab permettrait à l'État islamique de contrôler une large portion de la frontière syro-turque sans discontinuité et de renforcer son emprise dans le nord syrien où il occupe de vastes régions.
Et toujours concernant la menace que représentent les djihadistes de l'État islamique en Irak et en Syrie, le secrétaire d'État américain John Kerry et son homologue iranien Mohammad Javad Zarif se sont entretenus hier à New York. Cette rencontre entre les deux gouvernements, qui n'ont plus de relations diplomatiques depuis 34 ans, s'inscrit dans la volonté exprimée par Washington de discuter avec Téhéran des moyens de lutter contre les ultra-radicaux sunnites de l'État islamique. En réaction, le Premier ministre israélien a mis en garde contre un allègement des sanctions contre l'Iran pour son programme nucléaire controversé en contrepartie du soutien de la République islamique à la lutte contre le groupe État islamique.
Le secrétaire d'État Kerry a exprimé l'espoir d'une signature rapide de l'accord de sécurité entre les États-Unis et l'Afghanistan, régissant la présence d'un contingent militaire américain après 2014. Le chef de la diplomatie américaine réagissait à la désignation dimanche d'un président afghan en la personne de l'ancien ministre des Finances Ashraf Ghani.
En Chine, 3 explosions ont fait au moins 2 morts et de nombreux blessés hier dans le Xinjiang. C'est ce que rapporte le site gouvernemental d'information Tianchang. Cette région musulmane est en proie à de vives tensions interethniques. Une partie des Ouïghours se sont radicalisés ces dernières années et rejettent la tutelle chinoise. Pékin a lancé ces dernières semaines une vaste campagne de répression qui s'est traduite par plus d'une vingtaine d'exécutions annoncées officiellement, des centaines d'interpellations et des condamnations de masse.
Au Yémen, un accord de paix parrainé par l'ONU a été signé ce dimanche après une journée marquée par des avancées spectaculaires de la rébellion chiite qui s'est emparée de sites gouvernementaux et militaires avec le soutien apparent d'une partie de l'appareil d'État. Selon l'agence officielle Saba, la police militaire avait pris dimanche soir des mesures pour reprendre tous les bâtiments gouvernementaux dont les rebelles d'Ansar Walla avaient pris le contrôle, et cela à la demande de cette organisation. La radio d'État, le commandement général des forces armées, le QG de la 6e région militaire, le siège de la 4e brigade, le département de la propagande du ministère de la Défense, mais aussi le Parlement, la Banque centrale et l'aviation civile étaient auparavant tombés aux mains des rebelles qui avaient fait des avancées spectaculaires vers le centre de Sanaa, selon des responsables. L'agence Saba avait également annoncé la démission du Premier ministre Mohamed Bassin Dawa.
En Ukraine, le gouvernement du président Petro Poroshenko affirme qu'il n'y aura pas de retrait de l'armée dans l'est du pays tant que n'auront pas cessé les violations du cessez-le-feu établi il y a 2 semaines. Selon un porte-parole du Conseil national de défense et de sécurité à Kiev, les séparatistes et les soldats russes ont lancé de nouvelles attaques ce dimanche contre les forces ukrainiennes. En conséquence, dit-il, l'Ukraine n'entend pas mettre en application l'accord signé samedi à Minsk, Bélarus, sur le désengagement des forces et la création d'une zone tampon dans l'est ukrainien.
Le pape François a achevé dimanche soir une visite de 11 heures en Albanie, sa première en Europe, où il a notamment dénoncé la violence fondamentaliste religieuse dans un contexte de violence djihadiste au Moyen-Orient et en Afrique. Durant cette visite, le pape a fustigé l'utilisation de Dieu comme bouclier par des mouvements fondamentalistes religieux. Toutes les religions étaient concernées par les avertissements du pape, mais nul doute qu'il pensait aux exactions des djihadistes de l'organisation de l'État islamique en Syrie et en Irak et à celles de Boko Haram au Nigeria, fait remarquer l'AFP.
Le vaisseau spatial américain Maven est arrivé en orbite de Mars hier soir après 10 mois de voyage et avoir parcouru plus de 700 millions de kilomètres. C'est ce qu'annonce la NASA. Vous écoutez La Voix de l'Amérique et nous nous excusons pour ce problème technique qui perturbe nos programmes. Au micro, Morgane Guiriec, vous êtes à l'écoute de La Voix de l'Amérique. À nouveau, nous nous excusons pour ces problèmes techniques. On va pouvoir passer maintenant à la seconde partie de notre émission. Nous partons donc en République centrafricaine. La semaine dernière, la présidente Catherine Samba-Panza a noté avec satisfaction la baisse des violences intercommunautaires dans la capitale, Bangui. Mais ailleurs dans le pays, de vives tensions persistent entre communautés musulmanes et chrétiennes. C'est le cas à Boda, ville diamantifère située à 195 km au sud de Bangui. Reportage sur place de notre envoyé spécial Bagessi Koura.
Maisons détruites, boutiques pillées, lieux de culte incendiés. À Boda, les stigmates de plusieurs mois de violents affrontements entre chrétiens et musulmans sont visibles partout. Ici, les deux communautés se regardent en chien de faïence.
Celui qui s'éloigne de l'enclave est tué.
Altaïr Abdallah est l'un des notables de la communauté musulmane.
On ne peut pas bouger. Même ce petit pont que vous voyez, nous ne pouvons pas le franchir. Aucun musulman ne peut le franchir.
Alhaji Mahamat Adamou, 70 ans, dit qu'il est collectionneur de diamants depuis 24
ans. Quand les événements ont commencé, ils ont tout ramassé sur mes chantiers minis. Tous les outils, les motopompes, les diamants. Les chrétiens ont tout ramassé. Ils ont repris l'exploitation du diamant sur mes chantiers.
De son côté, Altaïr Abdallah, lui aussi exploitant de diamants, explique que cette crise n'a rien à voir avec le diamant. Sinon, on se serait battu depuis très longtemps, dit-il.
Notre souhait, c'est de nous entendre avec nos frères et qu'on puisse se promener librement comme auparavant.
Un message de réconciliation qu'on ne semble pas prêt à recevoir de l'autre côté du pont. À quelques 500 mètres de là, Sylvain, dans ses Ray-Ban, parade au milieu des anti-Balaka. Ici, c'est lui le chef.
Si on a dit départ des musulmans, soit opinion internationale.
Nous ne demandons que le départ des musulmans de Boda, que la communauté internationale ne se fatigue pas pour payer du riz, de l'huile pour les musulmans, qu'elle utilise cet argent pour payer des véhicules, pour délocaliser les musulmans, et la population sera libérée.
Malgré la présence des forces françaises de l'opération Sangaris et des casques bleus, la région reste largement sous le contrôle des anti-Balaka, véritable maître de Boda. Bagessi Koura de retour de Boda pour la Voix de l'Amérique.
Cap maintenant sur la République démocratique du Congo. Le président Joseph Kabila a signé la semaine passée une série d'ordonnances sur l'organisation et le fonctionnement des forces armées de la RDC. Des mesures qui font débat au sein de la classe politique et la société civile. Certains y voient un moyen de consolider la paix à l'est du pays, mais pour d'autres, ces mécanismes visent à perturber les prochaines élections qui s'annoncent difficiles dans le pays. De Goma, le reportage de Primo Pascal Roudaïgua. Vous êtes à l'écoute de La Voix de l'Amérique et à nouveau, nous nous excusons pour ces problèmes techniques. Le Mali célèbre aujourd'hui son indépendance, mais les festivités du 54e anniversaire du pays sont dominées par la crise au nord du pays. Les Maliens suivent de près les pourparlers d'Alger, alors que sur le terrain, la tension monte. À Gao et à Tombouctou, des marches ont été organisées au cours des derniers jours pour protester contre toute idée de fédéralisme, d'autonomie ou de séparation. Les manifestants ont réaffirmé leur appartenance à un Mali indivisible. Dans le même temps, la sécurité demeure une préoccupation pour les Nations Unies, dont les soldats ont récemment fait l'objet d'attaques. De Bamako, Kassim Traoré fait le point.
Les pourparlers d'Alger sont suivis de près par les Maliens. Certains partis politiques ont fait des contributions aux autorités maliennes avant le début de ces pourparlers, comme les forces alternatives pour l'émergence et le renouveau phare, dont l'ancien Premier ministre Modibo Sidibé en est le président.
Les moments sont critiques. Les pourparlers d'Alger, nous avons donné notre contribution, mais il est clair que les Maliennes et les Maliens doivent être vigilants pour faire valoir l'ensemble des préoccupations que nous avons pour notre pays. Un Mali indivisible, une nation unie et plurielle, la souveraineté sur l'ensemble du territoire du Mali.
Les populations des régions nord du Mali sont contre les avis des groupes armés qui parlent selon elles en leur nom et place sans être mandatés. Les différentes communautés de Gao l'ont fait savoir à travers deux activités, une marche et une rencontre de notabilités avec le gouverneur de la région.
Les notabilités de Gao soutiennent la marche du 18 septembre 2014 des jeunes et des femmes pour un Mali indivisible.
On n'acceptera jamais à ce que le Mali soit divisé. On veut toujours un Mali uni. Donc, toute personne qui veut la division du Mali, en tout cas, on ne composera pas avec lui.
Même son de cloche dans la cité de 333 Saints, le collectif Une Voix pour Tombouctou a organisé une grande marche de protestation. La situation sécuritaire se dégrade de jour en jour dans la région de Kidal. En moins d'un mois, le Tchad seul a perdu plus de 10 soldats. Selon le communiqué du gouvernement tchadien, les militaires de leur pays ne doivent pas être utilisés comme des boucliers. Bert Conders, chef de la mission de l'aménagement au Mali.
Ce sont des harcèlements, mais c'est même plus que ça. Ce sont des attaques contre nos forces, contre les forces tchadiennes, contre nos grands amis dans le MINUSMA, les tchadiens, qui ont perdu de nouveau 5 soldats. C'est clair, ce sont pour les gens qui ne veulent pas la paix, qui voient qu'il y a des négociations, qu'il y a quelque chose de sérieux qui se passe en Algérie, ils veulent le détruire. Bon, ils vont trouver la communauté internationale contre eux.
S'adressant au peuple malien dans le cadre de la célébration des festivités du 54e anniversaire de l'indépendance du Mali, le chef de l'État malien n'a pas oublié la crise sécuritaire qui sévit dans le nord du Mali, Ibrahim Boubacar Keïta.
Nous avons la mémoire toutes celles de tous ceux, anonymes ou célèbres, simples citoyens ou responsables publics, qui ont été victimes de la crise que nous avons vécue. Tirant tous les enseignements du passé, nous avons décidé de privilégier la voie du dialogue en vue de parvenir à un accord de paix global et définitif.
Compte tenu de la situation sécuritaire, la célébration du 54e anniversaire du Mali se fera dans la plus grande sobriété. Dépôt de gerbes de fleurs au monument de l'indépendance et une prise d'armes à Kati qui seront présidées par le président de la République sont les deux activités au programme. Bamako, Kassim Traoré, La Voix de l'Amérique.
Le Sénégal n'a plus de cas d'Ebola. Le jeune Guinéen malade qui était entré dans le pays est guéri. Il est rentré chez lui. Quant aux personnes avec qui il était entré en contact, il semble qu'elles n'ont pas été contaminées. Mais les mesures préventives sont toujours de rigueur. Le gouvernement, qui a décidé de lever le blocus à l'approche de la fête du mouton, rassure quant au renforcement de la sécurité. De Dakar, la correspondance de Dienaba Seydouba.
Il y a eu beaucoup de morts dans ça, j'avais appris avant de venir ici.
Ce sont là les premiers mots de Mamadou Aliou Diallo, le seul cas d'Ebola au Sénégal. Il est guéri et rentre au pays.
Bon, vraiment, je suis vraiment content. Ce n'est pas parce que c'est la fièvre Ebola qui veut dire que vraiment j'étais obligé de mourir. Et surtout en plus que les docteurs ont pris soin de moi. Donc vraiment, je suis ravi d'être guéri de cette maladie.
Plus de cas d'Ebola, le ministre de la Santé est formel. Les personnes en contact avec le jeune Guinéen ont été dépistées et n'ont pas la maladie. Mais le suivi est maintenu. Awa Marie Kolsek.
Toutes ces personnes ont bénéficié d'un suivi médical bi-quotidien avec une prise systématique de la température et ces personnes, aucune d'entre elles n'a développé de maladie. Donc après 21 jours de suivi, le risque de dissémination de la fièvre à virus Ebola à partir du cas qui a été diagnostiquée et en conséquence donc nulle pour notre pays.
Ce n'est pas pour autant qu'il faut abandonner les mesures préventives. Awa Marie Kolsek.
Il faut que les gens se rassurent. Les médecins compétents sont sur place, les infirmiers compétents sont sur place et peuvent régler vraiment beaucoup de problèmes pour les populations. Donc il y a toujours un peu de panique.
Avec cette fête du mouton qui approche, les autorités ont décidé de lever temporairement le blocus au niveau des frontières. C'est pour permettre aux vendeurs de l'Afrique de l'Ouest d'accéder au Sénégal. Mais les mesures sécuritaires vont suivre. Aminata Manguindiaï, ministre de l'Élevage.
Je sais que le dispositif sécuritaire qui a été mis en place par le ministre de l'Intérieur au niveau de nos frontières est un bon dispositif. Jusqu'à présent, je pense qu'il faut saluer ces efforts qui ont été faits par le gouvernement. La ruse, les gens l'utilisent dans tout ce qu'ils font, mais il faut espérer que ce dispositif-là puisse continuer de sévir, de travailler de la façon dont il le fait aujourd'hui pour que nous ne puissions pas avoir d'intrus ou quoi que ce soit dans le pays.
Ebola hante toujours les populations, même si le cas importé est rentré en Guinée. Le ministère de la Santé est toujours sur le qui-vive. Même avec la levée du blocus, la sécurité reste de mise à la frontière. Djina Basseidouba, Dakar, pour La Voix de l'Amérique.
Allez, on passe au sport avec Chérubin Dorsil. Bonjour Chérubin.
Salut Morgane.
Parlons pour commencer de la Ligue des champions d'Afrique.
On a joué hier dimanche des demi-finales allées, notamment en Algérie, où l'entente sportive de Sétif a battu le tout-puissant Mazembe de la RDC sur le score de 2-1, bien que les Congolais aient ouvert le score à la 52e minute. À Kinshasa, les Tunisiens du CS Sfaxien sont tombés sur le même score, 2-1 face à Vita Club.
Impact de l'épidémie d'Ebola sur le foot, l'interdiction contre trois pays ouest-africains s'étend.
En raison de l'épidémie, la Guinée, la Sierra Leone et le Libéria ne pouvaient déjà plus accueillir de matchs internationaux sur leur territoire jusqu'à la mi-septembre. Samedi, la Confédération africaine de football a en effet étendu sine die cette mesure de précaution contre la contagion. La mesure ne concerne pas le Nigeria et le Sénégal, où Ebola provoque des inquiétudes. Pour les éliminatoires de la CAN 2015, la Guinée a prévu de jouer au Maroc contre le Togo, tandis que la Sierra Leone devrait se retrouver chez l'adversaire, malheureusement, au lieu d'être à domicile pour son match d'ouverture face à la RDC.
Alors, on a joué sur beaucoup de terrains en Europe en cette fin de semaine. Quelques résultats?
Oui, samedi, dans le championnat d'Espagne, le Real Madrid a brillé de mille feux, écrasant le Deportivo La Corogne 8-2, y compris un triplé de Cristiano Ronaldo. Mais le titre de leader de la Liga revient au FC Barcelone, qui a passé une claque de 5-0 à Levante. L'Atlético Madrid a fait match nul 2-2 avec le Celta Vigo. Autre vainqueur, Almeria 2-1 face à Real Sociedad hier. FC Séville n'a pas fait de cadeau à Cordoba, renvoyé 3-1. Villarreal a battu Rayo Vallecano 4-2. En France, c'était la 6e journée du championnat de vendredi à hier. Entre autres résultats, Lyon tient le PSG en échec 1-2. Saint-Étienne gagne 1-0 face à Lens. Score vierge entre Lille et Montpellier. Nantes bat Nice 2-1, pour ne mentionner que cela. Dans la Premier League en Angleterre, la 5e journée a vu l'humiliation de Manchester United à Leicester 5-3. Man U a chuté en 12e position. Match nul 1-1 entre les champions de Manchester City et Chelsea. Arsenal a obtenu une victoire facile aux dépens d'Aston Villa, score 3-0. Deux leaders dans le championnat italien, la Juventus de Turin qui a battu l'AC Milan 1-0 pour le compte de la 3e journée et l'AS Rome qui a aussi 3 victoires en 3 rencontres. Le leader de la Bundesliga en Allemagne, c'est Paderborn. Eh oui, Paderborn qui a battu Hanovre 2-0. Le Bayern de Munich n'a pu empocher qu'un nul 0-0 face à Hambourg. Il est classé 4e pour le moment.
Enfin, sacre des Polonais en volley-ball international, Gabi.
Morgan, la Pologne a remporté son 2e titre mondial de volley-ball messieurs 40 ans après le premier en dominant le Brésil, triple tenant du titre, 3-7-1. La rencontre s'est déroulée hier à Katowice en Pologne. Revanche donc pour les Polonais qui avaient perdu en finale face à cette même équipe brésilienne à Tokyo au Japon il y a 8 ans.
Et comme tous les jours, on termine cette émission en musique avec Roger Muntou. Salut Roger.
Bonjour Morgane. L'artiste jamaïcain Bago a commencé à faire de la musique quand il était encore à l'école primaire. Hein. Mais c'est seulement en 2000, lorsqu'il rencontre Elephant Man, que sa carrière musicale explose. Elephant Man demande à Bago de lui écrire une chanson. Ah ça, c'est pas chaque jour, hein, Morgane, qu'une grande star vous demande de lui écrire une chanson. Quelle chance pour Bago. Ce matin, on l'écoute dans I Don't Worry.
I don't worry about them pagans, me dance to them through my Ray-Ban. I don't worry about them roaches, cause me don't know my bacon. I don't worry about life, but me worried about death.
Bogle et Elephant Man sont devenus amis, mais aussi collègues, car Bogle a passé beaucoup de temps à écrire les chansons d'Elephant Man.
Oui, mais après 5 ans, Bogle décide qu'il veut aller poursuivre sa propre carrière. C'est en ce moment-là hein, qu'il arrête de côtoyer Elephant Man, mais je dois dire quand même, Morgane, qu'ils sont restés des bons amis.
Bogle, I Don't Worry. Merci Roger.
De rien Morgane, un coucou à tous nos auditeurs de Mbujimayi dans la République démocratique du Congo.
Me dance with them through my Ray-Ban. I don't worry about the roaches, cause me don't have my bacon.
Roger Muntou que vous retrouvez tous les soirs à 20h temps universel dans le RM Show.
Me no worry about what I'm already. What me worry about I wanna go on with. Me serious with my thing, me not play. For the work when me out of them champion. No matter how life blurry, it fix in a hurry. Only way me I go worry if me can't pray. Remember to every action, there is a reaction. Negative or positive, choose you have an option. No can be a real man, but I can. Cause I judge I may rely on. Hey, hey. And don't worry about them pagans. Me dance to them through me Ray-Ban. I don't worry about them roaches, cause we don't have my bacon. I don't worry about life, but me worry about death. Me no worry about what gone already. What me worry about I wanna go on there. I don't worry about them pagans. Me dance to them through me Ray-Ban. I don't worry about them roaches, cause we don't have my bacon.
Ainsi s'achève Le Monde aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis en dépit de tous ces problèmes techniques. C'était Anne Albertson à la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Morgane Guiriac au micro. Je vous souhaite une excellente journée.
Dernières nouvelles en Afrique, aux États-Unis et ailleurs dans le monde, retrouvez-nous sur Internet, Facebook et Twitter. Washington, la voix de l'Amérique.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.